j'avais faim, j'avais besoin de Jésus. Ma vie était à sa fin, j'avais besoin de lui. Et dans ma solitude, oui, j'avais besoin de Jésus. Mes moments de calvaire, j'avais la tête en l'air. Il est venu à l'heure, il m'a rendu le bonheur. Même dans mon désespoir, oui, j'avais besoin de Jésus.
Au trône de grâce, en harmonie, apportons un chant du renouveau. Venons sans crainte avec nos voix, à lui notre plus beau. Chant nouveau
au trône,
au trône de grâce, chant d'harmonie, apportant un chant du renouveau. Venons sans crainte avec nos voix, à lui notre plus beau choix.
Et même dans ma détresse, il fut ma forteresse, les bras ouverts pour moi par l'œuvre de la croix. En lui j'ai le salut et j'avais besoin de Jésus.
Le Père est donateur de Jésus le Rédempteur. Par lui nous avons la joie, par lui nous avons la paix. Pour le pardon du péché, oui j'avais besoin de Jésus.
J'aimerais le dire sans gêne, ma famille ne va pas bien. Dieu m'a fait le plus grand bien, merci Dieu pour oxygène. Je vis l'amour du Christ avec ma famille aussi jeune. J'aimerais le dire sans gêne, ma famille ne va pas bien. Dieu m'a fait le plus grand bien, merci Dieu pour oxygène. Je vis l'amour du Christ avec ma famille aussi jeune.
Plus beau choix.
notre plus beau choix. Apportons un chant
laisser la place à Mathéo pour un témoignage.
Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Alors, avant d'écrire ce témoignage, il y a quelques psaumes qui sont venus à moi et que je voudrais vous partager. Psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Psaume 26, versets 6 et 7, « Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. » Beaucoup de fois, Dieu il nous appelle à témoigner dans nos vies, de témoigner de sa bonté, de ses bienfaits, de tout ce qu'il peut, de toutes les manières dont il peut se manifester dans nos vies. Et même la Bible, elle a été construite par des témoignages, les évangiles notamment, c'était le témoignage des apôtres de ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus. Et la Bible s'est construite comme ça, et donc Dieu nous appelle à pouvoir témoigner chacun de nous dans nos vies au travers de nos témoignages. Et aujourd'hui, le témoignage que je vais vous faire, c'est le témoignage de ma vie très brièvement, de comment Jésus a changé ma vie radicalement il y a deux ans de ça, en août 2021. Donc je parle, mais d'abord je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathéo. J'ai 20 ans, je suis ici à Angers depuis septembre pour les études, donc je suis en fac de sport. Et j'ai intégré le groupe Oxygène en novembre dernier. Et le plus important pour la fin, je viens de Vendée. Voilà. On dit que je suis souvent chauvin avec la Vendée, mais c'est pas vrai. Hein. Donc concernant mon chemin spirituel, j'ai grandi dans une famille qui était athée, totalement athée. Et mon éducation vis-à-vis de Dieu, elle a été comme ça. Et mes parents m'ont toujours répété que si Dieu existait, tout ce malheur n'existait pas, que tout ça c'était des bobards et que c'était juste des mensonges. Et que vous voulez que je vous dise, j'étais jeune, j'avais pas d'esprit critique, et donc toute ma jeunesse, j'ai cru les paroles de mes parents. Et j'ai bêtement suivi l'opinion de mes parents, et puis l'opinion de mes parents, c'est devenu le mien. Puis toute mon enfance, j'étais persuadé que Dieu n'existait pas. Et puis à chaque fois que le sujet venait, dans des situations comme un sale gosse, je venais et puis je provoquais tout le monde sur le sujet. Il y a même une situation auxquelles je repense, il y a une anecdote où je me battais avec des chrétiens parce que on avait quelques désaccords, disons. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui prêche à ces personnes et qui raconte ce que Jésus a fait dans ma vie à ces personnes. Je trouve ça tellement ironique. Bref, je grandis, puis au début, je défendais seulement l'opinion de mes parents, comme je disais, puis après c'est devenu mon opinion, puis après plus qu'une opinion, c'est devenu une haine. Et cette haine, elle a commencé à grandir lorsque je suis rentré au collège, puisque je rentre dans un collège catholique. Et au lieu de développer ma curiosité vers ça, ça m'a plus développé un élan de provocation. Du coup, je commence à fréquenter des gens qui viennent de familles chrétiennes, je commence à avoir des temps pastoraux, bref. Et tout ça, ça me motivait à les provoquer, et j'ai critiqué sans cesse. Mais vraiment, à chaque fois que le sujet venait, j'avais une véritable haine. Et donc, à la fin du collège, comme chaque collégien, j'avais un choix qui se présentait, un choix d'orientation. Vous êtes tous passés par là. Et c'était mon choix pour le lycée. Donc comme je l'ai dit au début, je suis sportif et tout ça, et j'ai toujours été. Et moi, mon choix, c'était de vouloir intégrer un sport-études. Bon, c'était une section assez sélective. Et parmi les 100 candidatures, il y en a 30 qui étaient pris au test sportif. Au test sportif, je termine par les 5 premiers. Les résultats scolaires étaient très bons, j'avais tout fait pour ça. Et lorsque les résultats tombent, moi, je tombe de très haut et je ne suis pas pris. Bon, c'est pas grave, mais du coup, je me réoriente dans une filière, dans un bac pro qui ne me plaît pas du tout. Et ça va avoir des conséquences sur toute ma scolarité, donc en partie également sur ma vie après. Donc, dans la rentrée de septembre 2018, je rentre dans une seconde bac pro que j'apprécie pas du tout. Je suis avec aucun ami. On peut faire mieux comme rentrée, je pense. Et ce qui va arriver est encore pire, puisque le lycée va me séparer de tous mes amis que j'avais lors de mon enfance. Petit à petit, je les perds un par un. Bon, je me refais des amis dans mon nouveau lycée, mais c'est pas la même chose. Et à la fin de l'année, je rechange d'orientation, donc je change de lycée. Et là, rebelote, je perds encore tous mes amis. Donc là, je me retrouve très seul. Et mon nouveau lycée, je sens que tout le monde est hypocrite avec moi et tout ça. En même temps, j'arrête du coup l'athlétisme, mon sport. Et en fait, ça avait tout le temps été mon identité. Et je commence à me perdre dans beaucoup de choses. Je commence à replonger dans tout ce qui était violence, je commence à découvrir l'alcool, etc. Et donc, en septembre 2019 à janvier 2020, je commence à m'assombrir petit à petit, vraiment. Et arrive le point de non-retour, celui du confinement. Donc, pour vous expliquer le contexte de mon confinement, mes deux parents n'étaient pas dans le foyer. Ma mère était submergée par le travail. Mon père venait de perdre sa mère et était à l'autre bout de la France pour cela. La seule personne à qui j'étais, c'était ma sœur. Et mon chien, si on le compte, mais on ne compte pas. Ma sœur, lors de cette période, m'insultait sans raison, ne me disait pas un seul mot, sauf pour s'emporter de colère contre moi. Et elle faisait de terribles crises d'angoisse et se sacrifiait au point, scarifiait au point d'être hospitalisée. Mon chien, je vous rassure, il ne m'insultait pas, lui. Je rajoute à cela qu'ayant plus aucun ami, je passe mon confinement extrêmement seul. Alors déjà qu'avant le confinement, bon, ça n'allait pas bien, je descendais encore plus bas. Et petit à petit, ce contexte a fait que je suis tombé en dépression. Et cette dépression va commencer petit à petit à me détruire. Je n'ai pas parlé de mon enfance pour des raisons de temps et des raisons personnelles, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement bagarreur et impulsif de mes 7 à 12 ans. Et pendant cette dépression, cette nature est revenue à un point qui était terrifiant. Je n'avais plus de goût à la vie, autant vous dire que les cours étaient finis. Et parfois, certaines pensées insupportables me venaient et je me mettais à tout frapper sur les murs, les meubles, etc. Jusqu'à ce que mes mains saignent, je criais sans raison, jusqu'à faire trembler les murs. Et ces crises que je vous décris sont venues comme ma dépression petit à petit. Au début, c'était une fois par semaine, puis plusieurs fois par semaine, puis une fois par jour, plusieurs fois par jour, et ainsi de suite. Pour toute ma famille, les temps sont très durs. Ma sœur est au bord du gouffre, moi aussi. Ma mère pleure à cause de ça. Et mon père ne parle plus. Et je passe plus d'un an et demi comme ça. Et au début, l'été 2021, je découvre un nouvel ami. Bon, il ne va pas être très sympa et son nom, c'était Alcool. Et donc, j'ai commencé à boire de l'alcool tous les soirs. Et je ne vous mens pas, c'était plutôt efficace. Pour oublier les problèmes, c'est plutôt efficace. Mais j'ai commencé à me sentir, à chaque fois, je commençais à me sentir très mal lorsque j'en manquais. Et c'est là où je me suis rendu compte, excusez-moi du terme, je me disais que je faisais grave pitié. Et donc, j'ai continué comme ça. Et vient un jour, où après une énième crise, je sors de chez moi et à un moment, je me retrouve de manière non calculée sur un pont qui était près de chez moi. Ce pont, il passait au-dessus d'une autoroute. Et je me suis arrêté, je me suis dit, pourquoi pas ? Je me suis dit, pourquoi pas sauter et mettre fin à mes jours, comme ça, enfin, le monde me portera compassion et je porterai plus cette pression, cette souffrance. Et je reste quelques temps, je ne sais pas combien de temps, à regarder l'horizon. Puis je me ressaisis et je rentre vite chez moi. À ce moment, il y a eu un déclic en moi qui me dit que si je ne vais pas mieux, j'allais crever à 17 ans. J'essaye, mais ces pensées qui me torturaient étaient plus fortes et me rendaient de plus en plus violent. Un soir vient et je me mets dans une crise sévère. Je criais extrêmement fort, ma main était ensanglantée à cause des coups, et je me suis effondré sur mon lit en pleurant, et je me suis dit, J'en peux plus, c'est trop pour moi, c'est fini. Et une pensée m'est venue comme une pensée de dernière minute. Je me suis dit, s'il y a quelque chose qui peut me sauver, c'est quelque chose de divin. Et j'ai prié, j'ai dit ceci, écoute, je ne sais pas si tu existes, mais si tu résous cette situation, je serai un de tes disciples. Le soir même, pendant la nuit, je tombe sur une pub qui me parlait de Jésus. Et je me suis mis à pleurer, puis je me suis mis en colère, puis j'ai éteint mon téléphone, puis je me suis endormi. Quelques semaines plus tard, la même situation arrive. Je prie pour que mon cœur puisse trouver la paix et je suis tombé par inadvertance sur un témoignage d'une chrétienne. Et celle-ci dégageait véritablement une paix qui m'attirait. Je parle de la paix, pas de la fille. Je voyais cette paix que j'avais demandée dans ma prière en elle et ça m'a vraiment motivé à lire la Bible. Donc je me suis intéressé à la Bible, et lorsque j'ai entendu parler de Jésus, tout a changé en fait. Là, pour moi, il y a eu un déclic. Et en fait, j'en avais toujours soif, et je me suis intéressé, et à chaque fois que je disais l'évangile, à chaque fois, tous mes problèmes, ils disparaissaient. Et petit à petit, quand je commençais à avoir la foi, petit à petit, je guérissais, alors que j'avais essayé tout pour guérir. J'avais essayé l'alcool, j'avais essayé tout, et juste le fait de lire un livre, ça paraît bête, en fait, ça me guérissait petit à petit. Et je commençais à avoir la foi. Et un soir, j'ai prié. Et à ce moment-là, je me considérais déjà comme chrétien. Et j'ai prié avec le nom de Jésus. Et en fait, il y a un amour qui est descendu sur moi. Et le Saint-Esprit venait en moi et je ne comprenais pas ce qui se passait, je me suis effondré, et le plus fou vient le soir même, lorsque j'ai eu un songe dans mon sommeil. Dans mon songe, j'étais avec des amis, j'ai ouvert une porte, et cette porte est menée vers une lumière blanche qui était devant moi, et cette lumière blanche, elle était dans la forme d'une croix, et c'était un homme qui me tendait les bras. Et c'était tellement impressionnant que, en fait, je reculais, et en fait, au bout de quelques instants, cette lumière elle s'est mise à se jeter sur moi, et cette lumière m'a rempli de son amour, et elle m'a dit « je t'aime et je reviens bientôt ». Et je me suis réveillé, et tout ce que je vous ai raconté, les dépressions, l'alcool, la violence, etc., tout a disparu. Et à partir de ce moment-là, toute ma vie, elle a changé radicalement. Et à chaque fois, en fait, quand je répète mon témoignage, je me rappelle à quel point, en fait, Dieu est réel, qu'il est fidèle et qu'il relève tous ceux qui se confient en lui. Et je sais que certains ici passent dans des moments difficiles. Que vous preniez courage, car le plus grand des malheurs, parfois, c'est la graine des plus grands des bonheurs. Moi qui avais la vie d'un jeune homme comme les autres, j'ai été en dépression jusqu'à vouloir mettre fin à ma vie. Et cet événement a fait que j'ai rencontré Jésus. Sans cela, peut-être que je n'aurais jamais pu rencontrer Jésus de manière aussi intense. Et je vous remercie tous de votre écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen, vous allez bien? Ça va? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, je vais nous parler d'un thème qui est connu, que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà entendu. Je vais parler sur l'amour de Dieu. Alors, je vais un peu te déranger en te demandant de dire à ton voisin qui est à côté, l'amour de Dieu, please. Habituez-vous, je vais bouger de temps à autre et je vous demanderai de faire certains exercices. Donc, j'aime ce que je vais dire. J'espère que vous allez aimer. Bon, même si vous n'aimez pas, si c'est la vérité. Alors, mon passage biblique de base se trouve dans les livres de Jean, chapitre 3, les versets 16. C'est un verset plutôt connu. Ce verset dit ceci. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen ou pas amen?
Amen.
Vous savez, nous sommes, j'ai essayé de voir l'actualité, nous sommes dans un monde qui est en manque d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais moi j'ai fait un constat, le monde manque d'amour. Et ce thème, en fait, de l'amour de Dieu, c'est pour nous chrétiens, mais c'est aussi pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, parce que je pense que ces personnes-là aussi doivent bénéficier et où sont, eux aussi ont besoin de l'amour de Dieu dans leur vie. Le monde actuel manque d'amour, il y a de plus en plus de haine. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux. Vous allez voir pour ceux qui y sont. Comment les gens s'insultent sans même se connaître. Tu ne me connais pas, on ne se connaît pas, mais on s'insulte. Les gens deviennent de plus en plus haineux. Il y a de la moquerie de plus en plus. Aujourd'hui, nous parlons même de ces phénomènes d'abus sexuels et tout. De plus en plus, le mal est en train d'accroître dans le monde, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires, et même, dommage, dans l'Église. Le mal est en progression parce que le monde manque d'amour. Malgré les progrès de l'évolution, malgré la technologie, le monde manque d'amour, le monde va mal. Il y a un philosophe, peut-être que vous connaissez, Gabriel Marcel, qui parlait d'un monde cassé. Pour montrer la situation du monde, il disait que nous sommes dans un monde renversé, où les valeurs sont renversées. C'est cela, ces mondes-ci. Dirigés par les hommes, les humains comme nous. Mais on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à s'aimer. Je suis en train de vous faire voir en fait la situation actuelle du monde. Il m'arrive étant jeune de regarder les anciennes vidéos des anciennes civilisations, des histoires passées, du passé. Je me dis, peut-être qu'ils vivaient un peu mieux que nous, parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus le monde s'empire, plus le mal s'accroît, plus il manque d'amour, plus il y a de la haine, plus il y a des catastrophes qui se font. Mais bon, ce n'est que mon impression. Je ne sais pas si vous partagez cela. L'avancée technologique avec la robotisation, il y a moins d'interactions entre humains. L'homme devient de plus en plus égoïste. Et il y a des suicides. Malgré cela, malgré cette avancée technologique, il y a des guerres qui se multiplient. Le chaos est semé par l'homme. Mais je vous assure que toutes ces choses sont causées, d'une part, parce que l'homme n'aime, il n'y a pas l'amour dans l'homme. L'homme manque l'amour de Dieu. L'homme croit gérer, l'homme croit maîtriser chaque chose par sa connaissance, par sa science. L'homme n'a que faire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne voient pas l'importance de Dieu. Croire, c'est pour endormir les gens. Parce que l'homme croit gérer par sa science, l'homme croit gérer par sa sagesse, l'homme croit gérer par son intelligence, alors qu'il ne maîtrise pas tout et qu'il est en pleine découverte de certaines choses. Il y a de cela 2000 ans, mais l'homme continue de découvrir. Mais malgré cela, malgré cette connaissance qui n'est même pas à son comble, l'homme se croit maître de toutes choses. Autrefois, la science qui permettait à l'homme de voir la grandeur de Dieu, aujourd'hui, cette même science permet à l'homme de dire que Dieu n'existe pas. Heureusement pour nous, il est écrit dans le livre des Psaumes que c'est une folie de dire qu'il n'y a point de Dieu. C'est une folie de dire qu'il n'y a point de Dieu. Car oui, Dieu est. Il y a un homme qui a dit « Dieu n'existe pas, mais Dieu est ». Par sa logique, l'homme ne veut plus être sous une quelconque forme de soumission. L'homme est en train de créer la guerre parce que l'homme n'a pas l'amour. Le monde a besoin d'amour. Chers chrétiens, je viens nous informer, nous réveiller en disant que le monde a besoin de l'amour. Mais pas l'amour que le monde propose. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Et ce sont les personnes qui ont vécu l'amour de Dieu qui peuvent communiquer cet amour au monde. Parce que l'amour de Dieu doit se communiquer. Aujourd'hui, par exemple, nous avons par exemple les génocides au Congo-Kinshasa. C'est les hommes qui causent cela. C'est l'homme qui est en train de faire cela. Il y a plusieurs morts, plusieurs femmes violées, toutes ces choses. Il y a la souffrance. Et les humains s'enrichissent à cause de l'argent. L'amour de l'argent fait en sorte que l'homme ne puisse pas voir l'intérêt de l'autre. Mais l'homme considère d'abord son propre intérêt. En bannissant Dieu par toutes ces choses, l'homme a banni l'amour. Car Dieu est amour. Il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour qui est la nature de Dieu n'est pas philosophique. Ce n'est pas ce qui est chanté à la longueur des journées par les artistes musiciens, un amour sexuel et sensuel. Mais l'amour de Dieu, qui est la nature de Dieu, applique l'homme à aimer son prochain et à faire du bien à autrui. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7 expliquent cet amour en disant ceci, que la charité, dans la version Louis II, est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est l'amour qui est défini selon Dieu. Il est vrai que nous n'atteignons pas peut-être ces stades, mais nous devons nous dire que c'est l'amour que nous devons manifester chaque jour auprès de nos prochains. Amen. Je me rappelle une fois, un jour, quand j'étais encore au pays, je devais aller à la répétition parce que j'étais choriste, j'ai chanté. Je devais aller à la répétition et j'étais un peu en retard. Et en marchant, en allant un peu vite et tout, on s'est croisé avec un homme, avec un inconnu qui venait devant moi. Vous savez, des fois, ça arrive, tu vas à gauche et puis la personne va à gauche. Tu vas à droite aussi et toi aussi, tu es allé dans la même direction. Mais les gars, failli me cogner. Alors que c'est normal, je n'ai pas fait exprès et il n'a pas fait exprès non plus. Je me suis dit, mais il y a des gens qui marchent avec la frustration, quoi. Il y a des personnes qui sont frustrées. Quand elle sort de sa maison, elle est déjà frustrée. Une fois, je partais à la rue Bressigny, ici, pour acheter à manger. C'était le soir, 21h, c'est déjà passé en 2020, je crois. Alors que je partais dans ma direction, il y avait un homme qui était en train de venir avec un sac. Et après, quand j'étais en train de continuer de marcher, j'entends quelqu'un crier de loin, de l'autre côté, « Je n'aime pas le noir !» J'ai dit, mais je n'ai rien fait, moi je ne le connais pas, moi je passais ma route. Je me suis dit, mais il y a des gens qui marchent avec la frustration. Il y a des personnes qui sont frustrées. Et les pièges dans cela, c'est que ces personnes vont vous communiquer cette frustration. Elles peuvent engendrer la haine. Comme ça, nous avons des personnes qui manifestent la haine, non pas parce qu'elles avaient cela, mais on les a communiqué cette haine-là. Ils ont reçu cette haine de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes, des hommes qui marchent avec la méchanceté, qui marchent avec la frustration. Et s'il y a des hommes qui marchent avec la méchanceté et la frustration, il doit y avoir des hommes aussi qui marchent avec l'amour. Les mondes nous influencent et nous amènent à la haine, la destruction, la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. On n'arrive pas à pardonner parce qu'une personne nous a condamnés à la condamner. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à pardonner quelqu'un, cette personne nous a condamnés à la condamner dans notre cœur. Les coups de la vie nous a dénaturés fortement. Il se peut que tu sois ici, les coups de la vie t'a forcément dénaturé. Avant, tu n'étais pas ce que tu es présentement. Tu ne manifestais pas ce que tu manifestes. Je viens t'informer, je viens te dire que l'amour de Dieu transforme. Un seul a été l'amour manifeste et a dit, « Père, pardonne-leur. Voici l'amour qui nous a été prêché. » lorsqu'il était à la croix, dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Retenez ces points-ci, c'est sur ces points que je vais m'arrêter. L'amour de Dieu ne fait exception de personne, car il est écrit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. » L'amour de Dieu ne fait exception de personne. Marc chapitre 2, versets 15 à 17. Il est écrit ceci. « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie, se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Voici, frères et sœurs, dans ces textes, nous voyons deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les religieux. Les religieux qui jugent Jésus. Pourquoi il se met avec les personnes de mauvaise vie? Les religieux, vous allez voir que par l'attitude des religieux, les religieux ont tendance à prendre en otage Dieu. Pour eux, Jésus ne peut pas s'approcher de ces personnes parce que ce sont les personnes de mauvaise vie. En d'autres termes, Jésus qui est l'amour manifeste de Dieu, l'amour ne peut pas aller auprès de ces personnes-là. Elles ne sont pas légitimes parce qu'elles ne sont pas religieuses. Les religieux croient que Dieu est à eux et Dieu ne reste que pour eux. Et des fois, dans notre marche chrétienne, nous sommes aussi des religieux. Ah, je suis chrétien, nous on est sauvés, ce sont des païens, ce sont des perdus. Oh, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Des fois, nous sommes égoïstes. Nous prenons Jésus captif. De la même manière que nous chantons « mon Jésus », on prend Jésus, on les garde, les petits Jésus à la crèche. Oh mon Jésus, on les garde pour nous seuls. On ne veut pas partager Jésus, on ne veut pas donner Jésus aux autres. On ne veut pas donner l'amour aux autres. Lorsque nous agissons ainsi, nous sommes religieux. Nous ne sommes pas différents de ces personnes qui étaient en train de dire à Jésus, « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas ?» Les religieux prennent en otage l'amour de Dieu et veulent la distribuer à ceux qui leur semblent justes. Les religieux disent ceci, « Dieu est à nous, pas à eux. » Ils pointent du doigt les autres, comme quoi l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est l'attitude des religieux. L'autre attitude des religieux, c'est que les religieux ont honte de parler de Dieu parce qu'ils veulent garder Dieu pour lui. Lorsque, à chaque fois, il t'arrivera dans un milieu où tu penses que tu peux parler de Dieu et que tu refuseras de parler de Dieu parce que tu as honte de Dieu, tu seras semblable à un religieux, tu gardes ton Jésus, tu gardes l'amour qui peut sauver, l'amour qui peut être transmis aux autres, tu les gardes pour toi. Et cette attitude n'est pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Les religions étaient surpris de voir des hommes sans intelligence parler de Dieu et les ont combattus. Parce que lorsqu'on devient religieux, on ne voit plus l'action de l'esprit. Les religieux ne peuvent pas voir un jeune en train de prêcher comme ça dans une église, mais c'est terrible. Ils n'ont pas d'expérience. Il n'a pas fait la théologie. Ça, c'est les religieux. Ça, c'est les religieux. Il a le monopole de la connaissance. Je me rappelle une fois, il y a un frère qui a organisé, quand j'étais au pays, un jeune frère qui a organisé une convention. Il a réuni des jeunes, il nous a invités. Il y avait une jeune fille qui s'était convertie il n'y a même pas une semaine, qui était avec nous. Bon, vous comprenez qu'elle s'était convertie il n'y a même pas une semaine. Donc, elle ne s'était pas vêtue décemment. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu la saisit, elle prophétise, elle parle de la part de Dieu, un message qui était correct aussi. Mais après, il fallait voir comment les religieux l'ont pointé du doigt. Comment est-ce possible qu'elle parle de la part de Dieu? Regardez comment elle est vêtue, c'est pas possible, non. Même si le message est exact, c'est un démon. Je dis, mais comment vous arrivez à parler ainsi d'une personne que vous ne connaissez pas? Alors que ça faisait à peine une semaine qu'elle s'était convertie. On devait dire gloire à Dieu. Elle s'est convertie il y a une semaine, voilà l'esprit, elle parle, elle prophétise. Il y en a qui ont fait 30 ans à l'église, qui n'ont même pas entendu Dieu parler. Et qui n'ouvrent même pas leur Bible. Parenthèse, il faut ouvrir ta Bible toi aussi. Ah. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ouvre ta Bible. La deuxième catégorie, je vais vite, il me reste quelques minutes. La deuxième catégorie, c'est les gens dits de mauvaise vie. Qui sont ces gens de mauvaise vie? Les pécheurs. Ceux qui vivent dans les péchés. Aujourd'hui, on parlera des ivrognes, des prostituées, on parlera des adultères, des toxicomanes, des gens de mauvaise vie. On parlera de la communauté LGBT. Ce sont des personnes de mauvaise vie. voyez tout ça? Les homosexuels, on va dire, ce sont des personnes de mauvaise vie. C'est dans la société actuelle, ce sont ces personnes-là que nous allons considérer comme étant des personnes de mauvaise vie. Mais Jésus est allé vers ces personnes-là. Jésus est allé vers ces personnes. L'amour de Dieu, c'est vers ces personnes que l'amour de Dieu converge. C'est vers ces personnes que l'amour de Dieu converge. En réalité, Dieu veut s'approcher de ces personnes-là. Dieu veut s'approcher de ces personnes dont nous disons qu'ils sont des personnes de mauvaise vie. Ils ont besoin de recevoir l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts à partager l'amour de Dieu à ces personnes? Sommes-nous prêts? Si tu es ici, tu fais partie de la liste des pécheurs, des personnes de mauvaise vie. Un péché, tu es lié par un péché. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent des fois derrière dans les églises. Sache que l'amour de Dieu est venu pour toi. L'amour de Dieu est pour toi. Je répète, l'amour de Dieu est pour toi. Mais en réalité, la première catégorie, les religieux, et la deuxième catégorie, ont tous besoin de l'amour de Dieu. En réalité, ceux qui pointent du doigt en disant « Ouais, ce sont les personnes de mauvaise vie, mais Dieu aussi leur reprochait. Ils étaient des hypocrites. Ils faisaient des choses en secret. » En réalité, tous, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alors, inutile de pointer du doigt en disant « Ah, tel, lui, il est homosexuel. Tel, il est ceci. » Il n'a pas besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de l'amour de Dieu. Mais quel est le problème avec la deuxième catégorie? Tout comme avec la première catégorie, le problème, c'est qu'ils gardent Jésus pour eux. Mais la deuxième catégorie, le problème, c'est que Jésus devient babysitter alors que Jésus s'est présenté comme étant médecin. Christ a dit que ces personnes de mauvaise vie sont des malades. Donc, lui, il vient comme un médecin. Lorsque le médecin vient, c'est pour te donner un traitement. Pas pour que tu restes malade, mais pour que tu guérisses. Maintenant, nous avons un problème avec les personnes de la deuxième catégorie. Ils veulent rester constamment malades. Christ n'est pas là comme un babysitter pour nous accompagner, mais Christ est là comme un médecin pour nous guérir. Le but n'est pas de t'encourager dans ce que tu fais, mais le but, c'est que tu reçoives l'amour de Dieu pour être transformé. J'aime cette phrase qui dit que nous ne venons pas à l'église simplement pour être informés ou être formés, mais nous venons aussi à l'église pour être transformés. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Car il y a un souci, ou sinon il y a double nature avec Dieu. Il y a la justice de Dieu qui agit et il y a l'amour de Dieu qui agit. La justice de Dieu qui va avec sa sainteté nous repousse, mais l'amour de Dieu nous attire. Ainsi, lorsque Dieu peut se présenter devant toi, sa sainteté fera en sorte que si tu es Paul, tu vas tomber de ton char, mais son amour fera en sorte que tu dis « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et très souvent, nous sommes collés à l'amour, mais nous ne voyons pas la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est aussi saint. Alors lorsque l'amour de Dieu se présente à nous, c'est une occasion pour nous d'être transformés, d'être éliminés. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu transforme. Car l'amour de Dieu n'est pas un placebo, mais l'amour de Dieu, c'est un médicament actif. Il est écrit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Amen ou pas amen? Je vais chuter en disant, mais comment recevoir cet amour? Dans les livres de Matthieu, chapitre 26, verset 50. Jésus lui dit, on parle de Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Ce texte me fait beaucoup du bien. Mais avant de rester sur ce texte, je vais donner un petit exemple. De lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, j'étais quelqu'un d'assez colérique. J'étais colérique et j'étais assez dur avec moi-même. Pour pleurer, je pleurais difficilement. Vous savez, l'éducation en Afrique, on tape très bien. Roger, n'est-ce pas? On tape très, très bien. Mais moi, il fallait vraiment bien taper aussi. Hein. Parce que moi, tu tapes, je ne pleure pas. Donc, il faut insister. Si tu entends qu'Israël a pleuré, c'est qu'on a tapé fort. J'étais assez dur comme enfant. J'étais têtu. Et j'étais très colérique. Il y a même des photos où j'étais vraiment en colère. J'étais vraiment en colère sur des photos. Et je me rappelle, mon père me disait toujours, arrête d'être colérique, arrête d'être colérique. Tu vas t'irriter et tout. Je disais, non, moi, je vais être colérique. Il me disait, tu auras des rides comme moi sur les fronts. Et moi, je disais, j'aime bien tes rides, je vais avoir ces rides. Aujourd'hui, je regrette, parce qu'il suffit que je lève mes yeux comme ça, il y a des rides qui sortent. J'ai dit, oh Seigneur, je vais vieillir avant. J'étais colérique. Et des fois, je ne manifestais pas forcément mes émotions. Et lorsque ma mère est morte à l'âge de 7 ans, je vois encore la scène, mon père qui venait du couloir et qui rentre avec son téléphone, on l'apprend que sa femme est morte. Et nous, les enfants qui étions là, nous avons commencé à pleurer. Je vois la scène, moi je ne pleurais pas. Mais je savais que ma mère était morte. J'avais conscience de ce que c'était la mort. J'avais 7 ans, ça va quand même. Je comprenais quand même que c'était ma mère qui était morte. Elle est partie. Elle était morte dans une autre ville. Nous étions dans la province, elle était à la capitale. Je n'ai pas ressenti d'émotion parce que j'en ressentais pas vraiment et je ne manifestais pas cela. Et je me rappelle, lors de son enterrement, c'est d'ailleurs les maris à ma sœur aînée qui m'a emmené promener pour que je ne puisse pas voir le corps de ma mère dans le cercueil. Et c'est là que lorsque le corps de ma mère est entré, que j'ai pleuré un peu. Mais sinon, je n'étais pas quelqu'un qui pleurait forcément. Pourquoi je vous dis cela? C'est que j'ai remarqué que depuis un certain temps, ça fait maintenant quelques années, je manifeste beaucoup mes émotions. Je pleure beaucoup aussi. Et je ne suis plus colérique comme avant. Je suis plutôt souriant. J'aimais plutôt l'ambiance. Et ça, je vous assure, ce n'est pas mon père qui a changé ça. Ce n'est pas ma mère. Hein. Ils ont essayé, ils m'ont battu, mais ça n'a pas marché. C'est l'amour de Dieu. Amen. Lorsque j'ai commencé à connaître l'amour de Dieu, j'ai commencé à recevoir. Parce qu'il y a certains, lorsque vous priez, en fait, vous ressentez l'envie de pleurer. Mais tellement que toi, tu es charismatique, tu dis, non, si je pleure, ils sont venus me voir. Non, je garde. Tu sens que ça monte. Non. Comment tu veux que l'amour de Dieu travaille dans toi? L'une des choses, c'est que lorsque tu laisses Dieu agir dans son amour, l'amour de Dieu se manifeste pleinement. Vous avez suivi les témoignages de Matthieu, je sais. Voilà. L'amour de Dieu se manifeste pleinement parce que nous laissons Dieu agir. Et en passant, j'ouvre cette parenthèse et je la referme très vite en disant, aux jeunes, sachez honorer vos parents lorsqu'ils sont en vie. C'est important. Parce que d'autres, vous êtes là, vous boudez vos parents toujours et tout. Même s'ils ne sont pas ce que vous voudrez qu'ils soient. Mais honorez vos parents. Appelez vos parents. Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. Ces messages-là, les jeunes, vous ne voulez pas entendre ça. Hier, Bernard me disait, Israël, je t'aime. J'ai dit, Bernard, tu es dans mon thème. Mon thème de dimanche, bien sûr, de dimanche matin, c'est l'amour de Dieu. J'ai dit, c'est cela. D'ailleurs, j'en profite, tu peux dire à ton voisin, attention, les célibataires, vous dites dans l'amour du Seigneur. Dis à ton voisin, je t'aime dans l'amour du Seigneur, s'il te plaît. Les amis, je m'en vais finir, ne vous inquiétez pas. Un jour, j'ai eu un souci avec ma grande sœur, ma sœur, celle qui vient juste devant moi. Un jour, j'ai eu un souci, c'est qu'elle m'invitait dans une réunion de prière, je n'y allais pas forcément. Je ne voulais pas y aller, quoi. C'était pendant la Covid, je ne voulais pas y aller. Et elle a tellement insisté, je me suis dit, bon, ça va, je vais lui faire plaisir aujourd'hui, je vais quand même y aller. Et vous savez, des fois en Afrique, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous rendre visite sans même vous y aller. Et alors qu'on voulait sortir, j'ai eu la visite des personnes qui venaient tellement de loin, j'ai dit, bon, comme je n'avais pas aussi envie d'y aller, je voulais lui faire plaisir, j'ai dit, bon, on fera ça prochainement. Et elle était fâchée. Elle est partie dans sa réunion fâchée. Donc je savais que lorsqu'elle allait revenir, ça allait être terrible. Parce que moi, de mon côté, j'allais bouder. Hein. J'allais bouder. Elle aussi, de son côté, elle allait bouder. Donc personne n'allait parler à l'autre. Chacun serait dans son camp. Mais j'étais surpris. Elle vient, elle m'appelle. Quand elle m'a appelé, Israël, j'ai dit, ça va barder. Moi, je suis là. Je voulais seulement te dire, hein, je viens de la réunion de prière. J'ai été touché par l'amour de Dieu. Je me suis dit que je n'étais pas content de l'acte que tu as posé. Mais pardonne-moi, parce que je me suis fâché, ce n'était pas de ta faute. Ce sont tes amis qui sont venus à l'improviste, tu n'avais pas le choix, tu es resté. Pardonne-moi de m'être irrité. Moi aussi, j'ai emboîté les pas. Non, pardonne-moi en tout cas. Moi aussi, vraiment, j'ai mal agi. Je pouvais leur demander de venir après, comme ça, ils allaient se discipliner. Et on a résolu cette affaire par l'amour. Amen. Des fois, lorsqu'on nous prêche ici, vous limitez la prédication ici. Aujourd'hui, j'aimerais que cette prédication aille dans vos maisons. Lorsque tu vas rentrer, dis à tes enfants, je vous aime, je vous aime. Tu appelles tes enfants, je t'aime. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non, je t'aime seulement. Ah, tu sais que je n'aime pas que quand tu dis je t'aime et Dieu t'aime aussi. Parce qu'on nous a prêché l'amour de Dieu. Donc vous comprenez avec moi que comment recevoir l'amour de Dieu? Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Je reviens dans Judas. Judas, il est vrai que le Seigneur avait dit, t'avais maudit. Il est vrai que le Seigneur avait dit malheur à celui qui allait me vendre. Mais rappelle-toi qu'avant que tu ne le vendes, avant qu'il ne meure, il t'a appelé mon ami. Or, il est écrit, je ne vous appellerai plus serviteur. Désormais, je vous appellerai mes amis. Lorsque Jésus t'appelle ami, il est en train de te dire qu'il t'aime toujours. Judas, tu as accompli la mission, ne meurs pas, ne te suicide pas, accepte l'amour de Dieu. Parce que lorsque Dieu agit dans sa justice, il peut te maudire comme il l'a fait avec Adam et Ève. Mais dans son amour, il te dira que la postérité de la femme écrasera les talons du serpent. Parce que Dieu donne toujours une ouverture. Parce que son amour est là pour ça. Lorsque tu es Job, même s'il va permettre à ce que Satan te touche, il ne voudra pas qu'il touche à ton âme. Même lorsque la justice de Dieu agit, sache que tu n'es pas maudit. Même lorsque tu es Jonas dans les ventres du poisson, accepte que l'amour de Dieu est. Crois à l'amour de Dieu, prie en fonction de cet amour et cet amour va te transformer. Amen ou pas amen. Amen. J'ai fini ma prédication. Je nous invite à nous lever par la prière. Après cela, il y aura les jeunes qui vont faire des pas de danse et puis Bernard va nous bénir. Mathieu, aide-moi avec le piano. J'aimerais que nous puissions prier. J'aime bien après une prédication comme ça. Confirmé par la prière. Je ne sais pas ce que tu peux dire à Dieu, mais je te propose un sujet, de demander à ce que, pendant ces moments, que l'amour de Dieu envahisse ta vie, que l'amour de Dieu envahisse ton cœur, que cet amour te transforme. C'est une proposition de sujet, tu peux prier autrement, mais j'aimerais que tous ensemble, nous puissions élever la voix et prier. Prions le Seigneur. Et là où tu es, si tu peux simplement mettre la main sur ton cœur, sur ta poitrine. Père éternel, Dieu de grâce, merci encore pour ce matin, pour cette prédication sur l'amour de Dieu qui m'a moi-même touché, m'a enseigné avant que je ne vienne enseigner à l'Assemblée. Père, je ne connais pas les cœurs de tout un chacun, mais je sais une chose, c'est que nous tous avons besoin de ton amour. Alors Père, que ce matin, ton amour inonde les vies, ton amour inonde le cœur par ton esprit qui répand en nous l'amour de Dieu. Précieux Saint-Esprit, répands ton amour en chacun de nous, que nous puissions réaliser combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es fort, combien tu es grand. Père, que cette prédication nous suive dans nos maisons, dans nos lieux de travail, à l'école, à l'université, au nom de Jésus.